Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde, il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de La Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et ayez toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal suivi du commentaire. L'histoire d'aujourd'hui est la mise au point.
La Voix de l'Indonésie. Les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Et on commence avec les titres. Le soutien de l'OKI aux Palestiniens est continué à Istanbul. Le ministère indonésien des Affaires étrangères a tenu une activité culturelle Coffee Morning. Le ministère de la Planification du Développement National et la France développent le potentiel des investissements en infrastructures. Le gouvernement accélère les négociations de CEPA avec l'Union européenne. Le gouvernement prépare une feuille de route de l'industrie de la transformation des algues. La Chine est le plus grand pays destinataire des exportations de riz. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Les efforts visant à lutter pour l'indépendance de la Palestine par l'épée de l'Organisation de coopération islamique, ou OKI, à travers le 13e sommet à Istanbul en Turquie, le 14 et 15 avril 2016. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Arman Atanasir, a déclaré jeudi 7 avril que l'ordre du jour principal à discuter était l'effort pour encourager la lutte palestinienne en augmentant la capacité de la société palestinienne dans le domaine du commerce, de l'économie, les droits de l'homme, l'agriculture, la bonne gouvernance et de l'emploi. Il espère que les résultats du sommet de l'OKI exceptionnel tenu à Jakarta en mars pouvaient être la base pour réaliser le sommet à Istanbul.
Ya, kita sih mengharapkan bahwa ada apa namanya hasil KTT OKI yang kemarin di sini yang luar biasa itu menjadi dasar bagi.
Nous souhaitons que les résultats du sommet de l'OKI exceptionnel à Jakarta puisse devenir la base pour appliquer le résultat du sommet à Istanbul. Certains des principaux points est d'unir l'épée de l'OKI pour encourager la lutte de la Palestine. Quelques mesures dans la déclaration de Jakarta liées au renforcement des capacités humaines. Armanata ne peut pas encore donner la certitude si le président Joko Widodo assistera à ce sommet. La ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, assistera au sommet le 12 et 13 avril. Une autre question qui sera discutée dans le 13e sommet de l'OKI est la résolution du conflit au Yémen. Selon Armanata, l'Indonésie soutiendra les mesures qui ont été préparées par l'OKI. Jusqu'à présent, il y a eu une certaine demande pour une réunion bilatérale avec le ministre des Affaires étrangères de l'Indonésie, entre autres le secrétaire général de l'OKI, Iyad Amin Madani. Le ministère indonésien des Affaires étrangères a tenu Cultural Coffee Morning le 7 avril 2016 à Jakarta. Ce programme de diplomatie publique a été participé par l'ambassadeur des femmes en Indonésie, les femmes de ministres, les femmes de chef de l'organisation internationale et les membres du Club international des femmes à Jakarta. Cette activité vise à promouvoir le patrimoine culturel de l'archipel, à savoir la musique, la danse, la mode et la nourriture traditionnelle, à la communauté diplomatique à Jakarta. À cette occasion, la ministre des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, a déclaré que la culture était l'outil le plus efficace de la diplomatie. Cet événement peut transmettre un message de la diversité au monde.
In diplomacy, cultural activities are proven to be always the best bridges.
Dans la diplomatie, la culture peut connecter des personnes en provenance de différents pays. La coopération culturelle apporte l'amitié et l'amitié apporte la paix. Et voici ce que les besoins mondiaux. Nous avons besoin de l'amitié, nous avons besoin de tolérance, nous avons besoin de la paix. Nous souhaitons que l'Indonésie puisse partager, montrer le patrimoine culturel, transmettre le message de l'amitié, la tolérance et la paix. Cet événement a présenté les arts et les produits culturels qui ont été reconnus par l'UNESCO comme patrimoine culturel mondial, tels que Angklung et Batik, y compris la musique et la danse dirigée par Titi Puspa. La représentation d'Angklung par Saung Angklung Ujo et le défilé de vêtements Batik renommé de Surakarta. En outre, les invités ont eu l'occasion de déguster la boisson traditionnelle qui est le secret de la santé et la beauté des femmes javanaises. Le ministère de la Planification de Développement National et le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion touristique de la France développent le potentiel des investissements d'infrastructures dans un certain nombre de domaines. Le ministre de la Planification de Développement National, qui est aussi le chef de Bappenas, M. Sofiane Djalil, a déclaré, après une réunion bilatérale avec la délégation française à Jakarta jeudi, que la délégation française a apporté des entrepreneurs qui étaient intéressés à investir et des projets de coopération en Indonésie, comme par exemple les télécommunications. Sofiane Djalil, après une réunion avec le secrétaire général pour le commerce extérieur et la promotion du tourisme de la France, Mathias Fekel, a expliqué que jusqu'à présent, la France coopérait dans le financement de la revitalisation du réseau de la télévision de la République d'Indonésie jusqu'à troisième étape. Mathias Fekel a déclaré que l'Indonésie et la France ont un climat de la coopération solide, à la fois dans le domaine de l'économie ou la lutte contre le changement climatique. Il y a 160 entreprises françaises en Indonésie et a créé environ 40 000 emplois. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministre indonésien du Commerce Thomas Lembong a affirmé que les négociations de partenariat économique global l'Union européenne-Indonésie seraient accélérées. Selon le plan, les négociations seront lancées par le président Joko Widodo à la fin d'avril 2016 au Bruxelles, en Belgique. Thomas Lembong a déclaré jeudi le rôle de l'Indonésie dans la chaîne de valeur mondiale ou régionale devait être amélioré car la concurrence est plus serrée. On peut la voir dans le développement de la coopération dans le domaine commercial qui est une solution de la lenteur des progrès des négociations du programme de Doha pour le développement. Le ministre veut que des négociations de partenariat économique global l'Union européenne-Indonésie puissent être résolues et mettre en œuvre ses résultats. Il espère que le cadre de coopération commerciale devienne une force motrice pour améliorer l'accès du marché. Le gouvernement prépare la feuille de route de l'industrie de transformation des algues sous le ministère coordinateur de l'économie. Selon le directeur de l'industrie alimentaire, des produits marins et de la pêche du ministère de l'industrie, M. Abdul Rahim, le développement de l'industrie des algues ne peut pas être fait seul par le ministère de l'industrie, de sorte qu'il est coordonné par le ministère de la coordination de l'économie. Selon lui, la feuille de route déterminera des objectifs de production, l'orientation de développement jusqu'au plan d'action pour atteindre les objectifs de transformation des algues. L'Indonésie dominait l'approvisionnement des algues séchées dans le monde avec une production de 337,8 000 tonnes ou environ 56% de la production mondiale totale qui a atteint 424,8 4 000 tonnes. Il a ajouté qu'actuellement, 152,9 000 de tonnes ou 64,3% des algues séchées étaient exportées vers divers pays, entre autres la Chine, la Malaisie et Singapour. L'Agence centrale des statistiques de la province de Riau a enregistré, en janvier jusqu'à février 2016, le plus grand pays destinataire des exportations d'eau pétrolière et de gaz de Riau était la Chine, qui s'élevait à 305,21 millions de dollars américains. C'est ce qu'a affirmé le chef de l'Agence centrale des statistiques de Riau, M. Mawardi Arsat, à Pekanbaru. Selon lui, de janvier jusqu'au février 2016, les exportations d'eau pétrolière vers 10 pays destinataires principaux ont contribué 71,31% à la valeur totale des exportations d'eau pétrolière de Riau. Il a affirmé que le deuxième plus grand pays destinataire de Riau était l'Inde et le troisième pays destinataire était la Malaisie. C'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Sajid Midwangten, après le journal, comme d'habitude, je vous présente maintenant le commentaire ayant pour le titre « Le premier ministre du Vietnam et son futur gouvernement ». Le Vietnam a un nouveau premier ministre, Nguyen Xuan Phuc, en même temps avec les efforts du pays de stimuler sa croissance économique. Mercredi dernier, le Parlement du Vietnam a élu Nguyen Xuan Phuc comme premier ministre, remplaçant Nguyen Thanh Dung. Nguyen Xuan Phuc, le seul candidat présenté par le Parti communiste du Vietnam, a remporté près de 91% du vote au Parlement. L'élection de Nguyen Xuan Phuc comme premier ministre vietnamien a fait l'un des triumvirats avec deux autres dirigeants, à savoir le secrétaire général du Parti communiste et le président du Vietnam. Il est assez différent de Nguyen Thanh Dung. Le nouveau premier ministre Nguyen Xuan Phuc, qui a 61 ans, n'est pas très bien connu sur la scène internationale, mais il a auparavant été vice-premier ministre. Nguyen Thanh Dung, qui a été premier ministre pendant 10 ans, est connu bien à l'étranger. Il était un réformiste qui a réussi à stimuler la croissance économique du pays et a fait du Vietnam un pays avec la croissance économique la plus forte en Asie. Nguyen Thanh Dung est licencié 3 mois avant son mandat se termine. Au milieu de projecteurs de l'absence de son succès d'encourager la réalisation de l'amélioration économique du Vietnam et rivaliser avec la Chine. Maintenant, Nguyen Xuan Phuc, connu sous le nom de la bureaucratie, doit travailler dur pour démontrer sa bonne performance à poursuivre les progrès qui ont été obtenus au cours du gouvernement précédent. Il devrait être en mesure de maintenir la dynamique qui est marquée par le taux de croissance économique du pays, près de 7% en 2015. Il y a 3 étapes principales que Nguyen devait mener bien. Il doit lutter contre la corruption, développer le climat d'investissement et protéger la souveraineté du Vietnam. Le nouveau premier ministre Nguyen Xuan Phuc a promis d'effectuer ses fonctions le mieux possible et d'utiliser son expérience au Parlement jusqu'à présent et en tant que chef de la planification du développement et de l'investissement. L'élection et la détermination de Nguyen Xuan Phuc comme le premier ministre du Vietnam pour les 5 prochaines années ne sont pas accueillies chaleureusement par toutes les personnes, en particulier certains observateurs. Un général de l'armée, Nguyen Van, a affirmé à l'agence de nouvelles AFP qu'il était pessimiste sur la performance de l'ex-bureaucrate. Nguyen Trong Van est également douteux que le nouveau premier ministre Nguyen Xuan Phuc peut résoudre rapidement certains problèmes laissés par le premier ministre précédent. Pour l'Indonésie, la succession du premier ministre vietnamien est certainement les affaires intérieures du Vietnam. Toutefois, l'Indonésie espère bien que n'importe quelle personne qui conduit les pays voisins et les collègues membres de l'ASEAN sera en mesure de continuer à augmenter la coopération qui existe depuis des années. la coopération commerciale économique, la question de la mer de Chine méridionale et les violations des eaux territoriales de l'Indonésie par les pêcheurs du Vietnam sont les trois choses qui doivent être discutées d'abord. Dans le même temps, la coopération dans l'ASEAN, en particulier en accueillant l'ère de la communauté économique de l'ASEAN, AEC, doit être une priorité conjointe. Serviteur, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous allons vous rencontrer dans notre programme aujourd'hui dans l'histoire de la Voix de l'Indonésie, l'édition 8 avril. Nous allons commencer le 8 avril 1946, le dernier entretien de la Société des Nations. La Société des Nations, ou SDN, est une organisation internationale qui a été créée après le traité de Versailles de Paris en 1919, après la Première Guerre mondiale. L'agence a de multiples fonctions, y compris le désarmement, la prévention de la guerre à travers la sécurité collective, résoudre le conflit entre les pays par la négociation et la diplomatie, et d'améliorer le bien-être global. L'idée d'établir SDN, inventée par le président américain Woodrow Wilson, bien plus tard, les Américains ne se joindront à cette organisation. L'avènement de la Seconde Guerre mondiale, de plus en plus insisté sur le fait que SDN avait omis de prévenir les guerres. Une fois le 8 avril 1946, SDN a tenu sa dernière réunion. 10 jours plus tard, elle était officiellement dissoute. On termine le 8 avril 1953. Jomo Kenyatta a été accusé comme le leader du mouvement contre le colonialisme britannique au Kenya. Jomo Kenyatta a passé son enfance dans sa ville natale et la ville Togoto. Puis il a travaillé dans un journal à Nairobi. Merci à sa profession comme écrivain et journaliste, qui est ce qui l'a mené à voler en Angleterre pour étudier. Après avoir resté 15 ans en Angleterre, en 1946, Jomo fait retourner au Kenya et est devenu un professeur. En 1947, il a été élu comme le président du parti Kenya African Union, un parti actif qui est anticolonial des Blancs. La lutte d'anticolonial britannique a finalement conduit à l'arrestation de Jomo Kenyatta le 8 avril 1953 et emprisonné pendant 7 ans. Après la prison, Jomo Kenyatta était de plus en plus actif dans la politique au Kenya. Jomo Kenyatta a servi d'abord au poste de premier ministre du Kenya en 1963, en 1964 et président en 1964 et 1978. Il est considéré comme le père fondateur de la nation du Kenya. Jomo Kenyatta est également connu comme un écrivain. Beaucoup de livres de son travail, y compris Face à mon Kenya en 1938, My People de Kikuyu et La vie du chef Wangombe en 1994, Kenya, la terre de conflit en 1971 et La silence de Uhuru. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui de l'édition 8 avril. À demain.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir tout le monde, voici donc la mise au point et pour le titre « Construire les aéroports et les ports pour unifier les régions d'Indonésie ». Le gouvernement indonésien est déterminé à construire la connectivité entre les régions de Sabang, la province d'Aceh à la pointe occidentale, à Wasior, la province de Papouasie occidentale, à la pointe orientale de l'Indonésie, pour encourager la construction des infrastructures des ports et des aéroports, ainsi que le développement des lignes de transport entre les îles pour réduire les coûts logistiques et le prix des marchandises, si bien que cela stimule le développement du nouveau centre de la croissance économique dans toute l'Indonésie. Pour cette raison, le président Joko Widodo, mardi 5 avril 2016, a inauguré le port de Wasior en résidence de Teluk de Wundama en Papouasie occidentale, qui est devenu le point le plus extérieur de l'autoroute marine. Le port Wasior est un port qui fait partie du programme de l'autoroute marine qui sert à connecter toutes les résidences dans le pays. Selon le président Joko Widodo, le port Wasior était construit pour résoudre aux besoins des installations de transport en commun de la résidence de Teluk Wundana en Papouasie occidentale afin de croître l'économie et de supprimer la disparité des prix entre les régions. Le président a expliqué, en plus du port de Wasior, à la fin de 2015 et au début de 2016, 27 ports ont été construits. Le gouvernement a également achevé la construction de 4 ports de passage, 7 nouveaux aéroports et 12 aéroports de restauration. En outre, le gouvernement est en train de construire également les 68 ports maritimes répartis aux Moluques, en Papouasie, l'Est de Nusa Tenggara et Sulawesi. Le président a souligné la construction de ces ports visait à transporter les passagers et à rendre facile le transport de marchandises. Mais le président Joko Widodo a rappelé que l'existence de ports dans certains endroits ne diminuait pas automatiquement le prix des marchandises, car pour le transport de marchandises nécessite encore la connectivité avec d'autres transports dépendant des infrastructures possédées. Selon le président, la connectivité entre les villes et les résidences est aussi à travers les modes de transport fera le prix de la marchandise à être le même dans tous les endroits. Le président Joko Widodo a souligné à nouveau le rôle important des dirigeants locaux à l'appui du développement des infrastructures, au moins l'acquisition des terrains. Pendant ce temps, le ministre des Transports, Ignatius Jonan, a affirmé que l'aéroport de Wasior a été initialement construit pour être un port du peuple. Depuis l'an 2010 jusqu'à l'année dernière, ce port a été amélioré et maintenant, il est devenu un port qui a des installations assez bonnes. Actuellement, le port peut être amarré par le navire jusqu'à 3500 ports en lourd tonnage. Serviteur, c'était la mise au point pour ce soir. Et après, nous vous présentons le rappel des titres de l'actualité.
Les efforts visant à lutter pour l'indépendance de la Palestine par l'épée de l'Organisation de coopération islamique, ou OCI, à travers le 13e sommet à Istanbul en Turquie, le 14 et 15 avril 2016. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Arman Atanasir, a déclaré jeudi 7 avril que l'ordre du jour principal à discuter était l'effort pour encourager la lutte palestinienne en augmentant la capacité de la société palestinienne dans le domaine du commerce, de l'économie, les droits de l'homme, l'agriculture, la bonne gouvernance et de l'emploi. Il espère que les résultats du sommet de l'OCI exceptionnel tenu à Jakarta en mars pouvaient être la base pour réaliser le sommet à Istanbul.
Ya, kita sih mengharapkan bahwa ada hasil KTT OCI yang kemarin di sini yang luar biasa itu menjadi dasar bagi.
Nous souhaitons que les résultats du sommet de l'OCI exceptionnel à Jakarta puisse devenir la base pour appliquer le résultat du sommet à Istanbul. Certains des principaux points est d'unir l'épée de l'OCI pour encourager la lutte de la Palestine. Quelques mesures dans la déclaration de Jakarta liées au renforcement des capacités humaines. Armanata ne peut pas encore donner la certitude si le président Joko Widodo assistera à ce sommet. La ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsoudi, assistera au sommet le 12 et 13 avril. Une autre question qui sera discutée dans le 13e sommet de l'OKI est la résolution du conflit au Yémen. Selon Armanata, l'Indonésie soutiendra les mesures qui ont été préparées par l'OKI. Jusqu'à présent, il y a eu une certaine demande pour une réunion bilatérale avec le ministre des Affaires étrangères de l'Indonésie, entre autres le secrétaire général de l'OKI, Iyad Amin Madani. Le ministère indonésien des Affaires étrangères a tenu Cultural Coffee Morning le 7 avril 2016 à Jakarta. Ce programme de diplomatie publique a été participé par l'ambassadeur des femmes en Indonésie, les femmes de ministres, les femmes de chef de l'organisation internationale et les membres du Club international des femmes à Jakarta. Cette activité vise à promouvoir le patrimoine culturel de l'archipel, à savoir la musique, la danse, la mode et la nourriture traditionnelle, à la communauté diplomatique à Jakarta. À cette occasion, la ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsoudi, a déclaré que la culture était l'outil le plus efficace de la diplomatie. Cet événement peut transmettre un message de la diversité au monde.
In diplomacy, cultural activities are proven to be always the best bridges.
Dans la diplomatie, la culture peut connecter des personnes en provenance de différents pays. La coopération culturelle apporte l'amitié et l'amitié apporte la paix. Et voici ce que les besoins mondiaux. Nous avons besoin de l'amitié, nous avons besoin de tolérance, nous avons besoin de la paix. Nous souhaitons que l'Indonésie puisse partager, montrer le patrimoine culturel, transmettre le message de l'amitié, la tolérance et la paix. Cet événement a présenté les arts et les produits culturels qui ont été reconnus par l'UNESCO comme patrimoine culturel mondial, tels que Angklung et Batik, y compris la musique et la danse dirigée par Titi Puspa. La représentation d'Angklung par Saung Angklung Ujo et le défilé de vêtements Batik renommé de Surakarta. En outre, les invités ont eu l'occasion de déguster la boisson traditionnelle qui est le secret de la santé et la beauté des femmes javanaises. Le ministère de la Planification du Développement National et le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion touristique de la France développent le potentiel des investissements d'infrastructures dans un certain nombre de domaines. Le ministre de la Planification du Développement National, qui est aussi le chef de Bappenas, M. Sofian Jalil, a déclaré, après une réunion bilatérale avec la délégation française à Jakarta jeudi, que la délégation française a apporté des entrepreneurs qui étaient intéressés à investir et des projets de coopération en Indonésie, comme par exemple les télécommunications. Sofian Jalil, après une réunion avec le secrétaire général pour le commerce extérieur et la promotion du tourisme de la France, Mathias Feckel, a expliqué que jusqu'à présent, la France coopérait dans le financement de la revitalisation du réseau de la télévision de la République d'Indonésie jusqu'à troisième étape. Mathias Feckel a déclaré que l'Indonésie et la France ont un climat de la coopération solide, à la fois dans le domaine de l'économie ou la lutte contre le changement climatique. Il y a 160 entreprises françaises en Indonésie et a créé environ 40 000 emplois. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministre indonésien du Commerce Thomas Lembong a affirmé que les négociations de partenariat économique global l'Union européenne-Indonésie seraient accélérées. Selon le plan, les négociations seront lancées par le président Joko Widodo à la fin d'avril 2016 au Bruxelles, en Belgique. Thomas Lembong a déclaré jeudi le rôle de l'Indonésie dans la chaîne de valeur mondiale ou régionale devait être amélioré car la concurrence est plus serrée. On peut le voir dans le développement de la coopération dans le domaine commercial qui est une solution de la lenteur des progrès des négociations du programme de Doha pour le développement. Le ministre veut que des négociations de partenariat économique global l'Union européenne et l'Indonésie puissent être résolues et mettre en œuvre ses résultats. Il espère que le cadre de coopération commerciale devient une force motrice pour améliorer l'accès du marché. Le gouvernement prépare la feuille de route de l'industrie de transformation des algues sous le ministère coordinateur de l'économie. Selon le directeur de l'industrie alimentaire, des produits marins et de la pêche du ministère de l'industrie, M. Abdul Rahim, le développement de l'industrie des algues ne peut pas être fait seul par le ministère de l'industrie, de sorte qu'il est coordonné par le ministère de la coordination de l'économie. Selon lui, la feuille de route déterminera des objectifs de production, l'orientation de développement jusqu'au plan d'action pour atteindre les objectifs de transformation des algues. L'Indonésie dominait l'approvisionnement des algues séchées dans le monde avec une production de 337,8 000 tonnes ou environ 56% de la production mondiale totale qui a atteint 424 000 tonnes. Il a ajouté qu'actuellement, 152,9 000 de tonnes ou 64,3% des algues séchées étaient exportées vers divers pays, entre autres la Chine, la Malaisie et Singapour. L'Agence centrale des statistiques de la province de Riau a enregistré, en janvier jusqu'à février 2016, le plus grand pays destinataire des exportations d'eau pétrolière et de gaz de Riau était la Chine, qui s'élevait à 305,21 millions de dollars américains. C'est ce qu'a affirmé le chef de l'Agence centrale des statistiques de Riau, M. Mawardi Arsat, à Pekanbaru. Selon lui, de janvier jusqu'au février 2016, les exportations d'eau pétrolière vers 10 pays destinataires principaux ont contribué 71,31% à la valeur totale des exportations d'eau pétrolière de Riau. Il a affirmé que le deuxième plus grand pays destinataire de Riau était l'Inde et le troisième pays destinataire était la Malaisie. C'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Pour la rubrique suivante, écoutez le magazine culturel et l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec une rubrique quotidienne, le magazine culturel. Et aujourd'hui, allez à la plage Goachina, à la ville Malang, Jawaes, pour jouir de sa beauté. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la Voix d'Indonésie. Outre par l'intermédiaire de longs cours, vous pouvez aussi nous capter par l'intermédiaire de live streaming à fr.boi.co.id. La ville Malang, qui se trouve à Jawaes, outre d'être connue de sa nourriture délicieuse, est aussi connue des beaux sites touristiques. L'un d'entre eux est la plage Goachina, soit la plage de la grotte chinoise. Cette plage se situe au village Tumpak Ayu, Sitiarjo, sous-district Sumber Manjing Wetan, en région Semalang, Jawaes. En fait, le nom d'origine de cette plage est la plage Rowo Indah. Mais au passé, avait eu lieu la mort d'un Chinois qui ont été emprisonnés dans la grotte qui se trouve dans cette région côtière. On sait quand une personne a entré dans la grotte et a vu les os de l'ermite et l'écriture mandarin dans le plafond de la grotte. Enfin, le nom Rowoinda est disparu, remplacé par la plage Goachina. Si vous êtes à Surabaya et vous voulez aller à la plage Goachina, vous devez partir tôt le matin car le voyage de Surabaya à Malang nécessite 2 heures et de Malang à la plage Goachina, on nécessite 2 à 3 heures. La plage Goachina, qui se situe au sud de Java, est entourée de collines. La route vous traversez devient très difficile. Vous passerez par les virages abrupts, pentes et nets en même temps. En outre, la largeur de la route ne soit pas trop grande, par conséquent, vous devez être prudent. Pour entrer à la plage Goachina, on doit payer 4000 rupiah, tandis que pour le stationnement de véhicules, on doit payer 5000 rupiah. À la plage Goachina, c'est interdit de nager, car la plage fait partie de la plage du sud, étant célèbre avec le vent et les grandes vagues. Parce que les vagues sont grandes, il n'y a pas de bateau de pêche qui compte sur la côte. Les visiteurs qui viennent peuvent profiter de ce phénomène rare, à savoir les grandes vagues qui entrent en collision en provoquant un rugissement. La plage Goachina est fournie avec de diverses installations, telles que des stands de nourriture, petites mosquées, salles de bain et un parking qui rendront votre séjour agréable. Bon, chers amis, c'était la rubrique du magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant sur l'Indonésie. Merci de votre fidélité. À demain! Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs. Voici l'Indonésie en couleur et en pour titre le Festival de Semarapura 2016. Serviteurs, pour la deuxième fois, la résidence de Klungkung à Bali organisera le festival de Semarapura du 28 avril au 3 mai 2016 au monument Puputan. Selon Iwayan Sujana, le chef du service de la culture et du tourisme de Klungkung, en tant également le chef du comité organisateur de cet événement, il n'y a pas de parade culturelle au festival de Semarapura 2016 comme l'année précédente. Pour le remplacer, il y aura une variété de spectacles d'art et de divertissement, le lancement du programme de Gemasanti ou le mouvement de la société polie et innovante, l'exposition commerciale et la foire de l'emploi. En outre, il y aura l'exposition culinaire. Sujana a ajouté qu'avant d'animer ce festival, le tour de la ville a été lancé en invitant les agences de voyage comme Asita et d'autres hommes d'affaires de tourisme. La route de tour de la ville sera commencée à partir du stationnement de Marseille Senggol au monument Puputan Klungkung et le temple Puri de temple Klungkung. Le voyage est continué au terrain Puputan, entrée à Kertagosa au marché d'art. La route du tour de la ville finit au stationnement du marché Senggol. Serviteurs, pour réaliser une série de lancements de tour de la ville de Semarapura, Divers arrangements dans la ville sont faits. À partir de l'arrangement de stationnement, du monument Puputan-Klungkung, le terrain de Puputan, le portail vers Kertagosa-Klungkung et l'entrée du parking de Senggol. Les performances du festival Smarapura visent à susciter la créativité de la communauté locale. Cet événement n'est lié pas seulement à l'art, mais aussi à la culture, y compris également introduire les artisanats aux alimentations des gens de Klungkung pour être plus connus par le public. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Comme la fin de notre émission, nous vous présentons la rubrique de distraction.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis de la Voix de l'Indonésie. Dans le monde entier, voici l'émission en langue française de la Voix de l'Indonésie, édition de vendredi. Et merci de rester fidèle à l'écoute de nos émissions. Et vous pouvez entendre nos émissions via l'émetteur à ondes courtes sur 9525 kHz ou bien via le streaming audio sur www.voi.co.id ou bien application RRI Play sur votre gadget ou portable. Pour cette édition, on vous présente la chanteuse indonésienne de dangdut. Elle s'appelle Minel. Bon, chers amis, comme le début de notre émission, allez écouter d'abord la chanson de Minel intitulée Mesra. Bonne écoute. Chers fidèles amis, la belle Minel, elle est née à la ville Pasuruan, en province de Jaffa de l'Est, au 19 mai 1968. Elle avait hérité la sanglier de ses parents. Donc c'est pourquoi, à son jeune âge, Minel avait déjà maîtrisé l'art de la danse moderne traditionnelle. Et vous savez, chaque année, elle a souvent gagné le concours de danse. Mais pour la musique, elle a le premier album intitulé Sombong, ou c'est-à-dire Arrogance, par la création de André Martinez en 1988, lorsqu'elle était élève au lycée. Après le collège, après le lycée à Pasuruan, elle a entré à l'université. Après le collège à l'université de Borobudur, Jakarta, Minel a lancé encore l'album intitulé Belenggu en 1992. Sur le compositeur Rina Joel Krizal et aussi d'autres albums comme Ingin Jadi Orang Kaya ou L'Homme Riche, Sapu Tangan ou Mouchoir ou Le Keroncong Reggae et Mata Macan. Bon, chers auditeurs de la voix de l'Indonésie entière et mes amis, eh bien, avant de continuer notre rencontre dans le magazine de musique, allez donc écouter la chanson de Club Clip de Minel et bonne écoute.
Melangkah keliling kota, membelah
Chers fidèles amis, au début de 2000, dans laquelle le genre de dangdut est de plus en plus populaire, Minel, comme dans son album Nyai Ronggeng, a fait la controverse. Le roi de dangdut, Roma Irama, a bien critiqué Minel, surtout sa danse et bouscule à la scène. Mais ça marche bien. Et puis en 2001, Minel a lancé un album en nuance de Melayu, qui est douce, sur le titre Kasih. Bien sûr, avec la piste Kasih. Cette chanson douce qui est très loin d'être le caractère de Minel, qui est vivant et bousculé. Avec la présence des violons, cette chanson de Kasih rend plus vivant et facile à écouter. Grâce à cette chanson, Minel a gagné le prix pour la catégorie de meilleure chanson de Melayu dans le programme Anugerah Musik. Eh bien, chers amis, avant de terminer notre rencontre, écoutez donc deux dernières chansons de Minel intitulées Kasih. Merci de votre fidélité et attention, bonne écoute et au revoir.
C'est la fin de notre émission. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.